1699, Exit Music. Bienvenue sur le troisième des quatre podcasts téléchargeables à partir de www.frequencemeeting.net. Ces podcasts reprennent l'intégralité de l'interview menée avec Last Exit Records et réalisée dans le cadre de l'émission 1696, Tous les chats sont gris, le mercredi 18 juin 2008 sur Fréquence Meeting, 103.8 FM à Brest.
Remix Loop par Arturo Pop Mix. On peut en parler un petit peu? Si vous voulez.
Ça s'appelle un blanc.
Ce qui s'appelle un blanc, oui.
Eh ben non, il boit son champagne.
D'accord, ok, très bien.
Oui, en fait, la musique de Robin se prête à tous les... à tous les remixes. On peut faire beaucoup de choses avec. Et là, on a fait appel à des personnages qualifiés pour faire des choses un peu sur sa musique. Et il y a des choses impressionnantes qui en ressortent, dont cet Arturo, dont on connaît l'identité, Damien, quand même.
Oui. Il joue dans un groupe breton.
D'accord.
Le nom de Sherka.
Ah ben voilà.
Ce groupe s'appelle Sherka.
D'accord.
Et donc oui, on a peut-être on a un petit objectif aussi, c'est de peut-être au cours de début 2009 de sortir quelques mix de l'album de Robin.
D'accord.
Donc, ça sera peut-être une sortie soit en vinyle, soit juste digital, on verra bien, mais on propose à plusieurs groupes de remixer.
D'accord. Bien.
Donc, on verra bien.
Bien.
C'est en cours.
OK. Et juste avant, donc le titre Intense par IQ, on peut en parler un petit peu, essayer de présenter un petit peu l'artiste. Hein.
Donc lui, il a pas mal voyagé, comme je disais tout à l'heure. Hein. Il a vécu en Argentine quelques années. Maintenant, il est installé à Barcelone.
D'accord.
Il a une sacrée culture musicale et ça se sent à travers sa musique. Quoi. Il y a beaucoup d'influence. C'est un univers assez typique.
Mm-hmm.
Comme Robin, dans sa musique instrumentale, on n'est pas habitué à ça. Hein. Mm-hmm. C'est vrai. Donc,
côté cinématographique, comme on en parlait également.
Donc, justement, je le placerai entre Sherka et Robin au niveau musical. Quoi.
D'accord. Ok. On va parler un petit peu de l'aspect promotionnel du label. Est-ce que vous avez une politique précise au niveau de la promotion? Est-ce que vous utilisez, entre guillemets, des schémas? Est-ce que vous reproduisez ces schémas pour chaque artiste? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu?
Bah, déjà c'est un peu notre politique à nous, c'est de faire attention de bien différencier chaque artiste. Mmh. Donc, si les artistes sont différents, les plans de promotion sont différents. On veut pas rentrer dans un schéma de maison de disques classique où tout est uniforme, où il y a des procédures pour faire marcher les trucs, etc. Nous, pas du tout. On réfléchit. La musique, elle ressemble à ça. Elle a telle influence, etc. Il faut travailler là-dessus. Il faut, c'est de la promo, mais on veut pas non plus rentrer dans un critère agressif ou, c'est de faire quelque chose assez éthique. Et je pense qu'il y aura un meilleur retour des choses au niveau des gens. Il faut surtout pas agresser les gens, quoi.
D'accord. Voilà, de toute façon, on peut pas balancer à des journalistes des CD promo ou des plaquettes de promotionnelles en donnant une couleur et en leur vendant le meilleur de l'artiste, de tel artiste brestois ou breton. Tant qu'on n'a pas, il nous faudrait à ce moment-là un laisser-passer je ne sais quoi d'une major pour que ça passe ou
c'est dans la pile et puis voilà. Là, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que tous les journalistes sont overbookés et
donc ce qu'on cherche à faire c'est vraiment donner un plus à l'information, en fait c'est une information valorisée qu'on va donner à ceux aux journalistes qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Et leur donner envie, bon, c'est pas simple à chaque fois. Et donc on multiplie un petit peu les formes de promotion. Alors,
d'accord.
Il y a le CD promo, oui. Il y a des plaquettes d'information, on le fait aussi. Mais on fait aussi sur des dates, par exemple sur des concerts, on va essayer de trouver.
Oui, justement, les soirées Last Exit Records présentes, hein, donc les soirées de lancement d'album, on peut en parler un petit peu?
Oui, c'est avant tout un moment pour célébrer la sortie de disque.
D'accord.
C'est aussi inviter donc les fans, les amis, la famille, les gens qui nous soutiennent. Donc c'est aussi se lâcher au cours de cette soirée et se dire bon bah voilà, là on vient de réussir un truc, on le sort, on célèbre ça, on marque le coup et puis voilà, on essaye de faire ça accessible. Donc c'est pour l'instant les deux qu'on a faites étaient gratuites.
Ouais.
On a plutôt bien rempli les salles, hein, malgré les dires de certaines personnes.
C'était vachement bien.
Ouais, on s'est bien fait plaisir. Et c'était important pour nous. Ouais. Ouais.
Voilà, puis c'est le moment aussi pour nous de montrer que même label, loin des arcanes, des grandes maisons de disques, on en peut très bien profiter, et en tout cas faire profiter à d'autres d'une musique qui nous plaît.
D'accord.
En ajoutant des petits plus, je sais pas si t'étais là toi Damien, il y avait un petit dinosaure
qui se baladait dans la
forêt en avril dernier.
Un truc de fou quoi, on a rien compris.
Je crois que je l'ai croisé.
Ouais.
Un dinosaure.
Il m'a même donné un petit dinosaure, incroyable.
Ouais, on rentre avec des trucs dans les poches. Et ouais,
c'est dingue, hein. Last Exit c'est dingue. Est-ce que Pascal Nègre fait des pogos au premier rang?
Ok, on continue un petit peu sur ces aspects-là. Peut-on parler un petit peu des ventes jusqu'à présent, alors sans avoir forcément des chiffres précis, mais avoir une idée un petit peu des volumes ou des unités qui ont été vendues sur vos productions.
En pourcentage aujourd'hui, un label comme le nôtre, on est à du 40% magasin, 30% digital et 40-40 plutôt digital magasin et donc 20% vente concert.
D'accord. Il y a également les ventes par internet.
Par internet, oui.
Ouais.
Donc ça, c'est 40%, c'est ce que je disais. 40% internet, 40% magasin et 20% correspondance et merchandising.
D'accord. On peut pas en savoir plus sur le.
Le problème, c'est que il faudrait que j'en discute avant avec les artistes, parce que certains artistes n'aiment pas qu'on communique ces chiffres-là. Même nous, c'est difficile d'avoir ces chiffres, c'est que on travaille sur des mises en place.
Ouais, c'est sûr que c'est pas consolidé avant.
C'est voilà, il faut un retour, il y a un décalage assez conséquent pour avoir les ventes réelles. Si on travaille sur des retours, sur des ventes, des mises en place et des retours, donc c'est une histoire de magasins, de chaînes, etc.
On peut dire que ça va quand même.
Oui,
en fait, c'était ça aussi un petit peu. Je veux dire, est-ce que vous ne mettez pas la clé sous la porte demain?
Non, pas encore.
D'accord. Ok. On a évoqué un petit peu la notion de merchandising tout à l'heure. Quelle est l'importance que ça revêt pour vous, le merchandising? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est...
C'est un petit peu inévitable aujourd'hui de bien travailler le merchandising, parce que bon, ce qu'on appelle la crise du disque aujourd'hui, c'est la baisse dans des achats. Ouais. Des disques en magasin, donc à un moment il faut quand même rentabiliser un studio, l'achat de guitare, etc. C'est des choses qui ne baissent pas.
D'accord.
Les prix sont assez, assez élevés. Ouais. Donc, faire un bon merchandising, c'est quoi? C'est diversifier tous les produits possibles, que ce soit faire des objets comme les vinyles. On est très attaché au vinyle. Faire des t-shirts sympathiques, des badges, tours de cou, etc. quoi.
D'accord. D'ailleurs, très bel objet, le vinyle de Robin Foster.
Vinyle blanc.
Le vinyle blanc de Robin Foster, avec le gros logo. Hein, donc bon, c'est, c'était le fly de la soirée. Enfin, de la soirée, oui. C'est le fly de la soirée, en gros. D'accord. Donc en fait, ouais, c'est une partie... Enfin, c'est considéré comme une partie importante de vos revenus, l'aspect merchandising.
Oui, oui, carrément.
Ouais.
Carrément, c'est important. Après aussi, on essaye de faire un effort pour que c'est... Le prix soit accessible, c'est on achète le CD après le concert, c'est moins cher que d'aller disquaire du coin. On fait attention à ça aussi. On sait que la musique c'est quelque chose qui est très, très très cher aujourd'hui. Mmh. Donc, mais en même temps, à côté, il faut bien qu'on fasse rentrer de l'argent pour continuer à développer des artistes. C'est de la création. On fait vraiment du développement. Et le développement, c'est un risque financier. Il faut pas l'oublier.
Ouais, c'est clair. Toujours un investissement plus ou moins de départ sur un artiste. Et il y a le fameux ROI. Le retour sur investissement qu'il faut.
Waouh!
Wow. Oh là là. D'accord. Juste pour continuer un petit peu là-dessus, quand on parlait de pourcentage tout à l'heure, quand tu parles de digital, parce qu'il y a plusieurs aspects, sur Internet, hein, du moins les ventes, quoi. Il y a l'aspect vente par Internet où la personne va commander son disque, mais c'est l'objet physique quand même.
Ça, j'appelle plus vente par correspondance.
Ça, c'est la vente par correspondance, ouais, voilà. C'est la VPC, ouais. Voilà. Là, ce qu'on appelle le digital, c'est
MP3.
C'est le téléchargement MP3. Voilà. Hein. D'accord.
Immatériel.
Virtuel. La musique virtuelle. Alors, je ne vais pas rebondir, sur le blog d'hier soir.
Ah mince.
J'ai essayé de mettre une réponse, puis je n'ai pas réussi. J'ai eu deux erreurs. On l'évoque ou pas un petit peu?
On peut l'évoquer, c'est très tendance en ce moment. Ouais. Non, c'est le projet de loi qui va passer là, que le gouvernement a concocté. Donc, nous, on a pas mal discuté entre nous. On est plus ou moins d'accord sur le fond. Hein, c'est compliqué aujourd'hui. Le téléchargement illégal, ça a quand même permis l'accès à une culture énorme. Et nous-mêmes, on en a profité. Donc, ça, c'est que bénéfique. Quoi. Alors, certains ont la théorie comme quoi ça a permis de remplir plus les salles de concert derrière. C'est pas forcément vrai non plus.
Non. Difficile à
c'est difficile.
Quantifier.
Donc, d'autres qui disent que c'est les gens qui n'ont plus de sous, c'est aussi un petit peu faux. C'est la gratuité est là, donc autant ne pas payer et utiliser cet argent-là à faire autre chose.
Tout à fait.
Donc, ce qui est important, ce que je trouve dommage, et c'est un peu utopiste de dire ça aussi, c'est qu'on aurait pu faire la part des choses, c'est-à-dire pirater énormément, mais continuer à contribuer au développement en achetant de temps en temps un album.
Tout à fait.
Ça aurait été génial, mais bon, c'est l'utopie totale. Il ne faut pas ignorer que la baisse des CD, c'est quand même plus de 50% de diminution. C'est énorme.
Bon, ce qui est certain, c'est que le disque, le CD, dans sa forme actuelle, le support, c'est que une fin de cycle pour un produit, en fait.
Ouais.
Alors, il faut trouver des alternatives, d'autres supports. Il y aura sûrement des choses dans l'avenir qui vont émerger. Mais pour ce qui est du téléchargement illégal, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait. Ce qu'on nous propose face à ça, c'est de faire la licence globale. Or, la licence globale, à mon avis et à notre avis à tous, dans le label en tout cas, on a pas mal discuté, c'est que ça tuerait la création à l'origine. C'est-à-dire qu'on n'émergerait plus de ce système-là que des musiques standardisées. Venant des majors et puant le fric. Quoi.
Où il faut faire attention, c'est que là on se dirige où le seul qui pourra s'en sortir, c'est Universal.
Ouais. Donc, on peut rappeler rapidement ce qu'est la licence globale pour les gens qui nous écoutent.
Donc la licence globale, ça serait mettre une taxe, on peut appeler ça comme ça,
un forfait sur
l'abonnement internet.
D'accord.
Et on peut télécharger tout ce qu'on veut. D'accord. Sauf que la difficulté, c'est de savoir comment on reverse ça. C'est-à-dire que les petits artistes, comment ils vont se retrouver? Est-ce qu'aujourd'hui la technologie est capable de faire la différence entre les titres de Johnny Hallyday et ceux de Robin Foster? Je suis pas sûr.
Déjà, la rétribution après bonjour. Hein.
C'est déjà, ouais, la répartition déjà de la SACEM est énormément décriée là-dessus parce qu'ils ont énormément du mal à faire la part des choses. Donc, si c'est pour se retrouver avec les petits artistes qui n'arrivent pas à en vivre.
Voilà, si à l'origine il n'y a plus de maisons de disques ou de labels qui prennent le risque de produire, enfin de faire une production, d'enregistrer. La musique ne sera jamais diffusée, donc c'est la mort des nouvelles musiques et des nouveaux musiciens.
C'est un problème très compliqué, personne n'a la réponse aujourd'hui et je pense pas que c'est la loi qui va apporter. Là, je lisais encore ce matin, ils disent qu'ils vont baisser le piratage de 70%, j'y crois pas une seule seconde. Il y aura toujours la technologie, permettra toujours de
contourner, c'est clair.
Et nous, même nous, moi je vais m'amuser à télécharger du Robin Foster pour avoir les avertissements et leur dire, mais attendez, je télécharge ma propre musique que j'ai produite, qu'est-ce que vous voulez faire? On verra bien, mais ça prouve bien que... Ouais. Ça voudra dire aussi qu'ils contrôlent le contenu et là-dessus, au niveau des libertés individuelles, c'est très dangereux.
Exactement. Ok. Donc le débat reste ouvert. On va poursuivre avec votre label, avec Last Exit, LER. Hein. Est-ce qu'il existe certainement une On a parlé d'éthique du label tout à l'heure, mais au niveau des choix artistiques, est-ce que vous avez des des lignes.
Alors déjà, ce qui est important, c'est que aucun d'entre nous n'avons la fonction de directeur artistique.
D'accord.
C'est quelque chose qu'on ne veut pas se vanter de faire de l'artistique alors qu'on n'a pas cette prétention-là. Donc, on écoute avec soin tout ce qu'on reçoit, etc. Après, c'est vrai que mais c'est comme ça. Hein, on aime ou on n'aime pas.
C'était les fameux coups de cœur dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas difficile de savoir si un artiste a du talent.
Ouais.
Après, c'est plus une sensibilité.
Exactement, après ça plaît, vous appelez
voilà.
Pas. Quoi.
Voilà,
ça reste subjectif.
Sans oublier aussi la part, en tout cas la voix du distributeur, donc Anticraft, pour nous, qui lui aussi donne son avis sur les choses qu'on va.
Oui, justement, parce qu'on a parlé de la distribution tout à l'heure. Est-ce que dans ce modèle-là, est-ce que justement les distributeurs donnent leur avis sur la façon
justement, nous, on veut qu'ils nous donnent leur avis.
D'accord.
Pas pour savoir si économiquement ça va être jouable.
Ouais.
Juste savoir avoir le même avis, mais savoir leur sensation aussi, okay. Parce que si ça leur plaît aussi, c'est magique. C'est-à-dire que c'est plus facile de défendre un artiste que tu aimes qu'un artiste que tu dis oh je vais faire du blé là-dessus. Quoi.
C'est ce qu'on a plus ou moins évoqué tout à l'heure, et c'est une notion de licence, ça dépend de la motivation des gens derrière à proposer le produit. Quoi.
Voilà.
Ouais, donc ça veut dire même, typiquement, si je prends le cas d'Anticraft, sur la façon de construire un disque, ils pourraient donner leur avis? C'est-à-dire les morceaux qui sont présents, peut-être pas jusqu'à ce niveau quand même.
Non. On garde la liberté
de créer.
Ils nous font confiance aussi, hein. C'est notre boulot aussi, mais... Ouais. Mais c'est important pour nous de savoir leur avis. Ça nous conforte dans nos idées et puis ça peut rendre plus fort le projet aussi.
Ouais.
Et c'est des gens qui nous disent allez-y, quoi. Essayez, faites. Donc presque à la limite, on leur soumet des idées, etc. Ils sont souvent d'accord avec nous, en fait.
C'est vrai qu'on travaille quand même sur des projets qui sont a priori pas accessibles, comme Robin Foster ou Haiku, même Arnaud. C'est-à-dire que c'est des musiques qui sont pas grand public. Ils nous disent de foncer, c'est ça qui est beau aussi pour un distributeur qui est là pour aussi se faire du blé. Et ils ont quand même une qualité d'écoute artistique, une éthique qui est importante.
Ouais. Et l'expérience de connaître aussi ce qu'il a. En termes de, juste pour parler encore un petit peu de ça, je les connais pas trop. Hein. Effectivement, on voit leur nom apparaître beaucoup, enfin Anticraft, hein, sur pas mal de distributions indépendantes. En termes de type de musique qu'ils distribuent, est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert ou ce qui est ciblé?
C'est super ouvert.
C'est super ouvert.
Ouais. Bon, Anticraft, ils ont la particularité en fait d'avoir créé donc une entreprise de distribution de disques pour faire différemment de ce que les majors. C'est des gens qui viennent des majors.
D'accord.
Et ils ont eu le ras-le-bol parce que c'était la Starac et tout et compagnie. Ils se sont dit bon, on va monter notre propre système de distribution, on va défendre les indépendants, etc.
Ouais.
Ils se sont vite fait rendu compte que faire juste de la distribution, ça allait pas être suffisant pour survivre. Donc ils ont créé autour de leur boîte de distrib des labels.
D'accord.
Et des labels de chaque couleur. Un label musique du monde, un label rock, un label français, etc.
Spécialisé.
Et en plus. Ils ont dit, on va signer en plus des labels indépendants qui ne trouvent pas forcément de distribution, on va les aider. Et ils ont la même politique que nous, on est dans le même bateau et on est là pour faire plaisir aux gens, pour permettre à des artistes qui sont vraiment artistes, quoi, que le mot prend sa signification, de pouvoir être distribué nationalement.
D'accord.
Voilà, et du côté des artistes, la politique du label, c'est de signer avec des gens qui nous aiment bien aussi. C'est-à-dire que nous, on a un regard artistique qu'on partage entre tous les membres, donc Damien, le distributeur, notre petite stagiaire, moi-même et d'autres encore.
Même on fait participer nos artistes. Voilà. Disant, voilà, nous d'accord. On pense qu'on va signer ça. Écoute, dis-moi ce que okay. T'en penses, etc. Voilà. C'est une... On aime bien justement, c'est le but de notre label, c'est de pas être dans un coin et faire le boulot, c'est de partager avec tout le monde. C'est...
Et même le côté humain après. Par exemple, Arnaud, c'est un mec, au-delà de sa musique, c'est un mec qui est génial. Et donc on s'est tout de suite accroché à lui, enfin accroché à lui, on lié à lui dans le sens qu'on l'aimait bien, que c'était un truc, c'était un mec bien et que.
Philosophe beaucoup avec lui.
Ouais, voilà, c'est non, c'est quelqu'un avec qui on avait envie de bosser, quoi, tout simplement.
Après, d'accord. C'est vrai que ce qu'on demande, c'est vrai qu'une question qui revient souvent, c'est quelles qualités doivent faire preuve les artistes.
Voilà, c'est pour, ça un petit peu, ouais,
pour travailler avec nous. Ouais. Clairement, c'est aussi comprendre notre jeunesse, parce qu'on est quand même jeune et on en veut, quoi. Ce qu'on veut faire aussi, c'est se marrer. Hein. On est là pour se marrer, quoi. On n'est pas là pour se renfermer dans un bureau et bosser comme des acharnés. Il faut qu'on se marre aussi de notre côté.
Bien sûr.
Donc, il y a cet esprit-là aussi à comprendre, quoi. On est là pour faire du bon boulot, mais on est là pour s'amuser.
Voilà, pour faire des soirées là.
Voilà.
Presents.
Avec des bons DJ à la fin.
Oh ok, on va s'écouter un autre extrait de la démo de Haiku.
Oui.
Ok. Donc je rappelle à nos auditeurs, l'émission c'est D6 tous les chats sont gris numéro 99, une émission spéciale consacrée à Last Exit Records. Donc le titre qui suit c'est J'aurais voulu par Haiku. C'est maintenant.
J'aurais voulu que vous ayez besoin de moi. Je voulais vous emmener sur une île déserte.